Écoutez le journal, vous est présenté par Anaïs Feuga. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Toujours plus de cas de cancer chez les femmes, c'est le principal enseignement du vaste rapport de Santé publique France. Les modes de vie qui ont largement évolué depuis 30 ans sont l'une des explications. On voit ça en détail dans un instant. Comment expliquer le naufrage du groupe de meubles Conforama, 480 millions d'euros de pertes depuis 6 ans, résultat 1900 suppressions de postes. Les salariés cherchent à comprendre depuis l'annonce de la direction hier soir. Une intervention parfaitement légitime et des doutes sur ses modalités. Propos du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner après l'évacuation musclée du pont de Sully, vous l'entendrez dans un instant. En Russie, un nouveau mystère autour d'un sous-marin dans le Grand Nord. 14 marins sont morts hier dans l'incendie du submersible. Mais que faisait ce sous-marin nucléaire? Correspondance de Moscou dans ce journal. Et puis ce mois de juin a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde. 2 degrés de plus en moyenne en Europe. Encore chaud dans le sud-est. Demain et attention aux orages, les prévisions de Météo France à la fin de ce journal.
France Inter.
C'est une grande photographie de la présence du cancer en France depuis 30 ans que dévoile aujourd'hui Santé publique France. Une vaste étude qui nous dit que l'écart se réduit entre hommes et femmes et on dénombre près de 400 000 nouveaux cas en France qui provoquent plus de 150 000 décès. Cette photo nous montre aussi, Véronique Julia, bonsoir.
Bonsoir.
Que les modes de vie ont changé depuis 1990 et que les femmes sont désormais plus exposées que les hommes.
Effectivement, si le cancer touche encore majoritairement les hommes, 54% des nouveaux cas, les femmes ont changé leurs habitudes depuis 30 ans et les plus de 50 ans le payent aujourd'hui très cher. Dans les années 70, 80, 90 même, elles se sont mises à fumer beaucoup, à boire aussi. Résultat, plus de cancer du foie, du rein et surtout du poumon. 5% de cas en plus tous les ans, avec une mortalité élevée qui plus est, car le pronostic est souvent sombre. Cette catégorie d'âge est aussi particulièrement touchée par des comportements sexuels à risque qui les ont exposées au papillomavirus. Anne Gallet de Santé publique France.
Dans les années 80-90, hein, il y a eu une évolution des pratiques sexuelles avec plus de partenaires, pas de protection, donc une transmission plus facile du virus à haut risque de cancer du col quelques années plus tard. Et donc c'est absolument important de vacciner nos jeunes adolescentes contre le papillomavirus, se protéger, c'est absolument fondamental.
Un message de prévention au passage, car d'une manière générale, les modes de vie ont un impact très important sur le cancer. On estime que 20% des cancers aujourd'hui sont liés au tabac, 8% à l'alcool, 5% au surpoids, 3% aux UV et 2% au papillomavirus. Depuis 30 ans d'ailleurs, la prévention a porté ses fruits, puisque des cancers étroitement liés à l'alcool chez les hommes, les cancers de la bouche et de l'œsophage en particulier, ces cancers chez les hommes ont beaucoup diminué. Cela dit, les modes de vie n'expliquent pas tout. On est même souvent confronté à des mystères. En France, par exemple, le cancer du pancréas augmente chez l'homme comme chez la femme de 3 à 4% par an. Une exception française que, pour l'instant, personne ne comprend.
Véronique Julia, spécialiste santé de France Inter. Par ailleurs, visiblement, la décision du gouvernement concernant le déremboursement de l'homéopathie n'est pas encore prise. Il y a une balance entre l'apport scientifique, les questions économiques et le bien-être de la population, explique la porte-parole du gouvernement. Toujours faire plus avec le sourire, mais ils disent non. Manifestation de centaines d'infirmiers des urgences à Paris, à Marseille, à Caen. L'hôpital souffre, 154 services d'urgence mobilisés. Ils demandent des effectifs et des hausses de salaire malgré les 70 millions annoncés par la ministre de la Santé il y a 2 semaines. On y revient dans le journal de 19h. Eux ont refusé de travailler, poussé leur magasin de meubles à fermer ses portes et se sont réunis dans la rue. Les salariés du magasin Conforama de Paris Pont-Neuf sonnaient par l'annonce de la fermeture de 32 magasins en France, 1900 emplois supprimés. Annonce hier soir de la direction au syndicat, convoquée ce matin pour un comité central d'entreprise qui n'a finalement pas eu lieu. Alors est-ce la fin d'une aventure née dans les années 60 en banlieue de Lyon, des meubles pas chers en plein boom des 30 Glorieuses? L'actionnaire principal, le sud-africain Steyno, est pris dans une tempête financière. 480 millions de pertes sur 6 ans pour Conforama. Maxime Debs, la direction explique qu'elle n'a pas le choix si elle ne veut pas faire sombrer l'entreprise.
La direction qui n'a pas rencontré les syndicats aujourd'hui, jeu du chat et de la souris entre les deux parties. Les premiers avaient fixé rendez-vous aux délégués du CE dans un hôtel à huis clos, alors que les autres voulaient responsabiliser les dirigeants, les obliger à se frotter au personnel du siège où 124 postes devraient être supprimés.
C'est pour éviter d'avoir à parler et à se justifier auprès de nous déjà et puis de la presse.
Auprès des salariés.
S'ils ne sont pas venus, c'est qu'ils ont eu peur, accuse Stéphane Roda, élu CGT Conforama.
Ils savent qu'ils n'ont pas mis
en place les éléments qu'il fallait pour s'en sortir dans les années précédentes. Les magasins sont vieillissants, il n'y a eu aucun investissement. L'outil informatique est encore en noir et blanc alors qu'on est passé à l'ère du numérique. On n'a pas d'application pour vendre les produits. Tout a été fait pour repousser les investissements.
Même constat du côté de Saïda Bouhera, délégué CFE-CGC dont le magasin va fermer.
Interrogez les salariés dans les magasins et vous verrez, vous allez vite comprendre. Il n'y a plus de remplacement, plus aucun remplacement. On n'accueille plus nos clients. L'ADN de Conforama, c'est d'accueillir ses clients, d'avoir une gamme de prix. Tout ça, ça a été bafoué. Ils nous l'ont fait comprendre. Les salariés, ça sera le sacrifice. On est victime d'une injustice. Ce ne sont pas nous les responsables, ce sont eux. C'est eux qui doivent partir, c'est pas nous.
En guise de riposte, les salariés des différents sites sont appelés à faire grève en attendant une réponse peut-être juridique. On actionnera tous les leviers, promettent les syndicats.
Le jeu des sept familles toujours sans solution à Bruxelles pour désigner les cinq postes clés de l'Union européenne. Hier, on pariait encore sur Frans Timmermans à la Commission et Manfred Weber au Parlement. Aujourd'hui, les cartes sont rebattues. Deux femmes proposées par la France et l'Allemagne. Ursula von Leyen, une fidèle d'Angela Merkel pour la Commission. Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne. À l'instant, Donald Tusk, le président du Conseil européen, affirme qu'un accord est de plus en plus proche. Et pendant ce temps, les 748 eurodéputés, ceux qui rempilent et ceux qui sont tout neufs, se sont réunis pour la première fois à Strasbourg, un hémicycle avec 40% de femmes, dont la plus jeune députée, une Danoise de 21 ans, et un doyen, Silvio Berlusconi, 82 ans. Et un code de conduite qui doit permettre aux citoyens de suivre leur travail. Le maître mot du Parlement européen, c'est transparence. Et ce matin, il a publié les déclarations d'intérêt des eurodéputés. Yael Gauz, vous nous avez rejoint et vous venez de vous y plonger.
Oui Anaïs, question, quelles ont été vos dernières activités rémunérées et ou avantages en nature? Dans le contingent RN, c'est Thierry Mariani qui est le plus précis, associé à la chaîne Russia Today jusqu'en novembre 2018, chaîne financée par le Kremlin. Et d'ici la fin de l'année, un projet d'association franco-syrienne. Mariani doit d'ailleurs revoir Bachar el-Assad fin août, début septembre. Toujours au RN, le chef de la délégation française, Jérôme Rivière, 20 000 euros par mois l'an dernier, grâce à sa PME spécialisée dans le nettoyage des moteurs, 20 000 euros par mois. Jordan Bardella, nouveau numéro 2 du RN, il déclare un véhicule de fonction avec chauffeur payé par le parti. Chez les marcheurs, d'importants écarts de salaire entre un Jérémy Deserle, ex-agriculteur, à moins de 1000 euros par mois, et un Gilles Boyer qui touchait, avant de conseiller Édouard Philippe, plus de 10 000 euros bruts mensuels via sa société de conseil. Du côté des Insoumis, les cours, pas très lucratifs, de Manon Aubry à Sciences Po, moins de 500 euros par mois. Enfin, un mot des LR, Geoffroy Didier et sa casquette d'avocat. Depuis 2015, 10 000 euros bruts par mois au sein du cabinet parisien Carlara. À 18h, il manquait encore une quinzaine de déclarations côté français, dont celle de François-Xavier Bellamy, de Raphaël Glucksmann et de Nadine Morano. Exercice de transparence, tout est en ligne sur le site du Parlement européen.
Yael Gauz, chef du service politique de France Inter, les déclarations d'intérêt des eurodéputés français, dossier complet sur franceinter.fr. Une affaire douloureuse, inextricable et médiatique. Le médecin de Vincent Lambert a engagé aujourd'hui un nouvel arrêt des traitements de son patient tétraplégique et en état végétatif depuis plus de 10 ans. Tous les recours juridiques semblent avoir été épuisés. La famille est déchirée. Une de ses sœurs a dit espérer que ce soit l'épilogue. La mère de Vincent Lambert, farouchement opposée à l'arrêt des traitements, doit se rendre à l'hôpital de Reims ce soir. Hier, dans le port de Sète, aujourd'hui sur 3 sites d'Amazon, vendredi dernier sur le pont de Sully à Paris. Faut-il s'y habituer? Action quasi quotidienne des militants qui dénoncent l'urgence climatique. Depuis ce matin, les entrepôts d'Amazon à Lille, Clichy et Toulouse sont bloqués par les Amis de la Terre qui refusent l'ouverture de 3 nouveaux sites jugés climaticides. Vendredi dernier, d'autres militants avaient été brutalement évacués du pont de Sully à Paris. Comment les forces de l'ordre doivent-elles réagir? Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur parle d'une intervention parfaitement légitime, mais il s'interroge.
Nous étions face à une manifestation non déclarée sur un pont, un axe de circulation majeur à Paris, et bloqué. Il y a eu des discussions pendant 2 heures pour demander aux manifestants de ne pas rester, d'occuper de façon irrégulière, illégale ce pont en gênant la circulation. Ils n'ont pas entendu se déplacer. Il y a eu le respect des règles avec des sommations, puis une intervention de nos forces de sécurité pour libérer la libre circulation nécessaire à Paris. Ensuite, il y a ces images, il y a ces doutes, des doutes que j'ai pu avoir aussi sur les modalités de l'intervention. Intervention parfaitement régulière, parfaitement légitime, mais les modalités m'ont interrogé et j'ai demandé une enquête interne. Et vous l'avez vu, depuis hier, le procureur a déclenché une enquête et c'est l'IGPN qui est en charge de l'enquête. La gestion de l'ordre public ne se fait pas en fonction de la cause qui est défendue.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. 13 candidats au bac sont en garde à vue. Ils ont été interpellés ce matin en Ile-de-France et dans les Bouches-du-Rhône. La police les soupçonne d'avoir fait fuiter les épreuves de maths des séries ES et L par messagerie privée, épreuve qui n'avait pas été annulée, la fraude étant limitée. Plusieurs dizaines de foyers encore privés d'électricité après les violents orages hier en région Auvergne-Rhône-Alpes, et ce n'est pas fini puisque 11 départements sont en vigilance orange dans le Massif central et dans les Alpes, avec rafales de vent et beaucoup de pluie en peu de temps. Juin 2019 a été par ailleurs le mois de juin le plus chaud au monde. Comment aménager nos villes face au changement climatique? Quelles solutions pour faire baisser les températures? Vos questions ce soir au téléphone sonnent au 01 45 24 7000.
Le journal de 18h. Sur France Inter.
On est loin du drame du Koursk, mais la tragédie d'hier ravive son souvenir en Russie. 14 marins russes sont morts dans l'incendie de leur sous-marin basé dans le Grand Nord. Officiellement, ce submersible était censé étudier l'environnement et les fonds marins, mais le ministère de la Défense n'a donné que peu de détails. Claude Bruyot, bonsoir.
Bonsoir Anaïs.
Vous êtes à Moscou et le ministère semble plutôt gêné par cette affaire.
Oui, car il est présumé non détectable, classé top secret depuis la reprise de sa construction au début des années 2000. L'AS-12 Le Charik, c'est son nom, est capable en plongée de descendre jusqu'à 6000 mètres et a donc refait surface en quelque sorte à cause de cet incendie à son bord hier. Et alors qu'il effectuait des mesures en eau profonde officiellement dans la mer de Barents au large de Mourmansk, donc ce sous-marin nucléaire long de 79 mètres avec 25 hommes d'équipage à son bord n'est pas à proprement parler un bâtiment de combat, mais il a été conçu pour être capable, notamment en cas de conflit, de sectionner les câbles sous-marins intercontinentaux et toutes les liaisons sensibles qui passent par le fond des mers. En clair, un sous-marin de la flotte du Nord spécialisé dans le sabotage et dont la marine russe ce soir donc doit évidemment éclaircir les défaillances. Et presque 19 ans, Anaïs, donc, après le drame national du Koursk en août 2000 qui avait coûté la vie à 118 sous-mariniers déjà à l'époque en mer de Barents.
Claude Bruyot, en direct de Moscou. L'Allemagne a accepté d'accueillir ce soir une dizaine des 41 migrants arrivés en Italie à bord du Sea-Watch. Le compromis accepté par l'Italie englobe aussi la France, le Portugal, la Finlande et le Luxembourg qui ont accepté de se répartir l'accueil de ces migrants. Allez, le magicien de l'herbe, le magicien de la terre. Aujourd'hui, sur les courts de tennis de Wimbledon, Roger Federer, Rafael Nadal entrés en lice, tous les deux aujourd'hui. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud.
Bonsoir Anaïs.
Vous êtes à Londres, alors démarrage en douceur pour Roger Federer et une journée plutôt favorable pour les Français.
Alors d'abord, Roger Federer effectivement a perdu un set, le premier de sa quinzaine face au Sud-Africain Lloyd Harris, mais il a gagné les trois autres et finalement sur le central, il a pu passer au deuxième tour. Ça se passe plutôt bien aussi pour Rafael Nadal, le deuxième des trois grands en lice aujourd'hui, puisque Rafael Nadal domine pour l'instant le modeste japonais Sugita sur le court numéro 1 juste à côté du central. Pas de problème dans le tableau féminin pour Angélique Kerber, la tenante du titre à Wimbledon, pour Ashleigh Barty qui vient de gagner Roland Garros. Serena Williams vient juste d'entamer son match. Côté français, vous l'avez dit, c'est plutôt favorable. Kristina Mladenovic, Gilles Simon, Joe Wilfried Tsonga se sont qualifiés. Kristina Mladenovic s'est débarrassée notamment en 3-7, assez serré de la Russe Diachenko. Fiona Ferro, elle a été éliminée par la Belge Elise Mertens. Et puis Pauline Parmentier, en ce moment, eh bien, est en train de pousser Maria Sharapova, l'ancienne numéro 1 mondiale. Et les deux joueuses disputent le jeu décisif, même si c'est Sharapova qui a gagné le premier set. Des matchs à Wimbledon sous le soleil, des conditions impeccables pour jouer au tennis. Et ça, c'est aussi la bonne nouvelle, le début de la quinzaine.
Merci Jean-Pierre Blimaud. Et puis 22 buts pour les Américaines, 11 pour les Anglaises. Les deux meilleures attaques du mondial féminin de football pour une quasi-finale avant l'heure. Ça n'est que la demi à guichet fermé. Coup d'envoi ce soir à 21h. Demain, Pays-Bas, Suède. Dans un instant, la météo.
La météo avec les volets roulants Velux. La protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
La météo avec Météo France et Elodie Calac. Encore des orages ce soir.
Et oui, parfois fort entre le Massif central et les Alpes. 11 départements sont en vigilance orange. On attend aussi de la grêle, de fortes rafales de vent. Ça se calmera en cours de nuit. Alors demain, sur la moitié sud, on commencera la journée avec de larges éclaircies. Juste des nuages bas pour le sud-ouest, vite oublié. Encore une petite ondée possible du côté des Alpes. L'après-midi, des orages sur les Pyrénées. Même chose sur les Alpes et le Massif central avec de la grêle en prime. Entre les Charentes, le centre et la Franche-Comté, des éclaircies, un petit risque d'ondée seulement le matin. Et puis au nord de la Loire, jusqu'à l'Alsace, du soleil.
Et côté thermomètre, quelques degrés de plus.
Oui, 12 à 24 degrés le matin. Et puis l'après-midi, 20 à 24 degrés près de la Manche, 26 à 33 ailleurs. Toujours un cran au-dessus sur le sud-est avec 30 à 36 degrés.
Élodie Calac, Météo France, merci.